Quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps ?
Joséphine Baker.
Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur.
Aux États-Unis, je n'avais pas de bas. En France, on m'a donné des chaussettes, puis des talons. En France, les maisons sont petites, mais les talons hauts. Joséphine Baker a toujours été intarissable quand il s'agissait de défendre les avantages comparatifs de Paris. Une noire pouvait y frayer avec tout un chacun et y être choyée par le milieu artiste. Car c'est lui qui, le premier, a construit sa réputation dans la seconde moitié des années 1920. La célébrité auprès du grand public est venue ensuite, et dans les années 60, enfin, elle fut sans cesse à la une de la presse à scandale. Elle voulait en effet faire de son extravagant château des Milandes, où elle accueillait une douzaine d'enfants adoptés, venus de tous les pays, une capitale de la fraternité, mais elle y creusait d'un même mouvement un gouffre financier qu'elle défendait face aux créanciers et au fisc. Après le fantasme de la femme noire, voilà qu'elle incarnait la mère de famille universelle. On se souvient aussi du titre auquel elle avait accédé pendant la guerre, lieutenant de la France combattante. Dans le milieu du spectacle, ils n'avaient pas été si nombreux à refuser le parti de l'indifférence politique. Régis Debray a noté, chez elle, légèreté rime avec liberté. Et il a proposé, mi-sérieux, mi-provocateur, qu'elle entre au Panthéon. En attendant, elle repose à Monaco, où la princesse Grace lui avait offert l'hospitalité. Joséphine, c'est liberté, égalité, fraternité, mais aussi souveraineté du people.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Martin Penet, historien de la chanson, bonjour.
Bonjour Jean.
Vous avez entre autres publié un grand album dans la collection BD Musique consacré à Joséphine Baker, qui a été considérée comme une Vénus d'ébène et comme une sauvage au temps où elle est arrivée à Paris au moment de la Revue Nègre en 25. En fait, c'était une habitante d'une grande ville américaine.
Oui, parce qu'elle est née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, et d'ailleurs elle était métisse, donc d'un père blanc qui n'avait jamais été vraiment identifié, et c'est son père adoptif, mari de sa mère, donc qui se nommait Martin. Et en fait, elle s'est appelée Baker parce qu'elle a épousé un Baker, un noir, donc un peu plus tard, mais elle était quand même très très jeune.
Maurice Chevalier, avec qui elle va avoir des rapports toujours contrariés, l'a vue à ses débuts avant qu'elle n'arrive dans la capitale française.
Oui, ça se passait en 1922, donc parce qu'elle était dévorée par le spectacle dès son adolescence, et donc elle n'avait que 16 ans, et elle était déjà parvenue à se faire engager dans la troupe noire du spectacle Shuffle Along, monté par Noble Sisal et Hubby Blake, dans un théâtre de la 63e rue à New York, et c'est là que Maurice Chevalier, qui était en voyage avec son ancienne maîtresse Miss Tinguette, est allé voir le spectacle et a découvert ce phénomène, et il en parle dans ses mémoires en disant « Parmi les girls qui étaient représentées par de jeunes danseuses noires, j'en remarquais une dont le corps presque nu avait d'étranges attraits. Son visage convulsé, contorsionné, avait soudainement des détentes ravissantes. Sur le programme, son nom mélangé à ceux d'autres danseurs était Joséphine Baker. » Et on peut dire que ça l'a beaucoup influencé.
On retrouvera d'ailleurs le nom de Miss Tinguette un petit peu plus loin dans le parcours de Joséphine Baker. Elle est arrivée à Paris dans une troupe dirigée par Caroline Dudley qui avait fabriqué un produit de musical très bien élaboré et qui va arriver au Théâtre des Champs-Élysées.
Oui, en fait, elle voulait monter donc une revue nègre, comme on disait à l'époque, pour le compte d'Alfred Daven, qui était donc le directeur artistique du Théâtre des Champs-Élysées. Et il y avait une saison d'opéra musical, parce qu'on a un peu de mal aujourd'hui à s'imaginer pourquoi il y avait une revue comme ça à cette époque au Théâtre des Champs-Élysées, plutôt au temple du classique et de la danse. Et bah oui, il y avait donc des saisons de musical. Et donc, elle était allée recruter à New York tout un tas d'artistes. Et elle avait pensé d'abord à Ethel Waters, qui était infiniment plus connue que la toute jeune Joséphine Baker. Mais la pauvre, ne parlant pas français, hésitait. Et puis finalement, c'est Joséphine qui y est allée, sans imaginer tout ce que ça allait lui ouvrir comme perspective, bien évidemment.
Enfin, on lui demandait non pas de chanter en français, mais surtout de danser avec la souplesse qui la caractérisait. On a entendu ce quand disait Maurice Chevalier. La Revue Nègre a produit un effet extraordinaire sur les spectateurs. Un des écrivains de l'année 1925, c'est Joseph Delteille, qui épousera d'ailleurs plus tard Caroline Dudley. Les voilà tous les deux témoignant rétrospectivement, ils sont sur leurs vieux jours.
C'était une journée inoubliable, incroyable, inouïe. Nous sentions tous transportés dans la forêt nègre. On ne savait pas si on avait affaire à des danseuses, à des fils ou à des panthères. Tout le monde dansait. C'était vraiment incroyable. C'est la plus belle journée de ma vie. Nous étions tous amoureux de Joséphine, évidemment. Je n'ai qu'un regret. C'est que je ne savais pas encore que Caroline était ma femme.
C'était un triomphe. Mais je pensais que ce serait un triomphe parce que j'avais Louis Douglas et Joséphine et Sidney Bechet. Et c'était vraiment une avalanche d'applaudissements.
C'était en somme un changement de registre. C'était le passage du vieil homme au nouvel homme. Je pense que ça a changé jusque dans les choses de la peinture, de la littérature. C'était un immense point d'orgue.
Une régénération. Attention, ce qu'on entend, ce n'est pas un enregistrement de la Revue Nègre. Il n'y en a pas.
Non, alors il n'y a aucune trace sonore ni visuelle de la Revue Nègre, donc ça a permis du coup de la mythifier d'une certaine façon. Et on n'a que des photos, des articles de presse, des programmes, très rares d'ailleurs, et puis des témoignages comme ceux qu'on vient d'entendre.
Est-ce qu'on a entendu la date de l'année suivante, 26?
Oui, alors ça c'est un enregistrement, donc ce sont ces premiers enregistrements qui datent donc de fin 26, lorsqu'elle était déjà vedette aux Folies Bergères, et parce qu'elle a quitté la troupe de la Revue Nègre au cours de la tournée qui a suivi, donc à Berlin et à Bruxelles, donc là on est début 26, et elle se fait engager d'abord discrètement et puis finalement elle éclate donc aux Folies Bergères, et c'est là qu'elle a révélé toute sa personnalité, et le fameux costume avec les bananes, ça date des Folies Bergères, si on peut dire, oui.
Seulement 1926, voilà, c'est pas,
alors que dans la Revue Nègre, il y avait une danse de sauvage, tout à fait imaginée pour plaire au public français, où elle était nue avec juste un pagne de feuillage, donc mais il n'y avait pas la ceinture de banane. C'est venu donc quelques mois plus tard.
Dont acte. J'ai parlé de régénération parce que beaucoup d'artistes qui ont fait le succès des vedettes noires des années 20 à Paris voyaient dans leur survenue une régénération de l'art. Et c'était les artistes qui soutenaient Joséphine Becker.
Oui, c'est vrai que c'était quand même un succès d'abord parisien, hein, la Revue Nègre, et puis et même les Folies Bergères qui avaient tout de même un public plus international, mais c'était quand même très parisien. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'était pas la seule artiste noire à Paris à cette époque-là. Il y a eu une sorte de vogue pendant toute la deuxième moitié des années 20 et encore après. Donc il y avait par exemple les Blackbirds, une troupe qui s'est produite aux Ambassadeurs sur les Champs-Élysées, et tout ça est très bien représenté dans un recueil, un portfolio de dessins de Paul Collin qui s'appelle Le Tumulte Noir, hein, publié en 1927, et donc on voit Joséphine parmi d'autres artistes représentés, et ça montre tout cet engouement, cette folie qu'il y a eu pour les musiciens, les danseurs noirs américains qui séjournaient à Paris et qui étaient très bien accueillis, souvent mieux que dans leur propre pays.
Pour individualiser dans Le Tumulte Noir une vedette, rien de tel, ça c'est une formule classique du musical, qu'un amant manager.
Oui, alors un certain comte Pepito Abettino, qui n'était pas du tout comte, qui était un séducteur italien très autoritaire, mais aussi assez avisé, qui a décidé de devenir son manager et qui, en quelque sorte, a créé l'image de marque Joséphine Becker avec toutes sortes de produits dérivés, comme on dit maintenant, et surtout qui l'a formé, c'est-à-dire que voyant qu'aux Folies Bergères, ça commençait un petit peu à patiner, à dire toujours un peu la même chose, eh bien, il a décidé d'en faire une grande vedette qui soit capable d'affronter le public du Casino de Paris et de concurrencer d'autres vedettes comme Miss Tinguette. Mais pour ça, il fallait d'abord qu'elle se forme. Et donc, elle est partie en tournée pendant 3 ans à travers l'Europe et l'Amérique du Sud. Et en Europe, évidemment, dans certaines capitales, elle a fait scandale, que ce soit à Munich ou à Vienne. Et le spectacle a même été interdit.
À Munich, oui. Oui. Ouais. Et à Vienne, ça a un peu chauffé. Quand elle revient en France, puisque le but, c'est quand même celui-ci, sa capacité de mener une revue fastueuse est assurée. Ce retour, c'est 1930, au Casino de Paris, de Varna et Dufresne. Je ne fais pas d'erreur. Hein.
Non, ça va.
Le climat est un peu différent de celui de 1925, parce que Paris baigne alors dans la grande illusion coloniale avec l'exposition du même nom qui ouvre en 1931 au grand plaisir d'un chanteur classique français, Perchicot.
Sans prendre repos, on a visité tous les groupes. Le Maroc, le Congo, la Cochinchine et la Guadeloupe. Le Siam, l'Algérie, les États-Unis. Ah, que c'est beau, l'exposition. Quelle émotion, quelle sensation. Les ayons emmenés tous au bal nègre dans ces donnaires. Allègre, qu'est-ce qu'on a fait comme consortion. Ah, que c'est beau, l'exposition.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Martin Penet, nous parlons de Joséphine Baker. Moi, je ne la voyais pas en interprète de l'auto-satisfaction coloniale, au point de chanter la petite tonkinoise.
Oui, alors quoi, parce que c'est comme un tour de force d'incarner la tonkinoise, mais en même temps aussi, la fille des savanes, c'était très, très éclectique. C'était dans une série de tableaux intitulée « Les colonies françaises », donc qui était dans cette revue « Paris qui remue ». Et d'ailleurs, cette chanson, La Petite Tonkinoise, est beaucoup plus ancienne. C'était une reprise, en fait, d'une chanson de 1906 créée par Paulin. Et donc, c'est aussi dans cette revue qu'elle crée J'ai deux amours. Et J'ai deux amours, en fait, c'est pas l'Amérique et Paris, comme
c'est
on
pas l'Amérique et Paris.
Non, c'est plutôt les colonies et Paris. C'est quand elle dit ma savane est belle, il n'y a pas vraiment de savane aux États-Unis, à ma connaissance. Donc, si vous voulez, c'est cette idée qu'elle, finalement, elle est devenue un peu, presque malgré elle, la reine des colonies. D'ailleurs, ça a été le titre qui lui a été décerné cette année-là. Et comme il était habituellement réservé à une française de couleur, ça a fait un peu scandale, quoi.
Et plus tard, elle fera un film qui s'appelle Princesse Tam Tam. Alors, oui. Elle a changé de registre, mais elle a aussi changé, avec cette grande revue du Casino de Paris, de dimension. Vous avez cité une fois le nom de Mistinguette, il faut qu'il revienne, parce que jusqu'ici, la souveraine de la grande revue de musical, c'était Mistinguette.
Oui, bah, j'ai envie de reprendre les termes d'un journaliste qui a vu cette revue, donc Paris qui remue, et qui a déclaré « Miss et Joséphine sont deux étoiles jumelles. L'une triomphe parce qu'elle est extraordinairement de chez nous, parisienne du Faubourg ou parisienne de luxe, misère et prodigalité. L'autre, parce qu'elle est extraordinairement d'ailleurs, de la forêt vierge ou des plantations de canne à sucre. Elle a appris à parler français et à chanter et elle joue un sketch formule Mistinguette, un sketch dramatique, où on la voit dans une tempête marine où l'incendie sont finalement remplacés par un affreux cyclone tropical. » Et voilà, donc c'était la même formule, mais adaptée un petit peu à la sauce Baker.
Donc il fallait quand même qu'elle force les représentations parisiennes ou françaises pour pousser ses racines dans le pays. Une maison au Vésinet qu'elle va appeler Beauchêne, le château des Milans dans Dordogne qu'elle commence à louer à la fin des années 1930. Elle obtient la nationalité française à ce moment-là. Et quand commence la drôle de guerre, elle va être la marraine de guerre idéale.
Oui, bah c'est-à-dire qu'en fait, elle a été à l'affiche du Casino de Paris avec Maurice Chevalier, alors qu'ils ne s'entendaient pas vraiment, entre donc l'automne 39 et le printemps 40, dans une revue qui s'appelait Paris-London. Et c'est là que finalement... Bon, alors, elle a participé au Théâtre aux Armées, comme bien d'autres artistes. Donc là, elle était presque française, de par sa nationalité et de par son engagement. Et puis là, il va se passer quelque chose d'assez étonnant. C'est que le capitaine Jacques Aptay va la recruter par l'entremise d'un impresario pour devenir agent double bénévole de la section Allemagne de service de contre-espionnage à Paris.
Et là, on est à l'automne 39.
Absolument. Hein.
Et il y a une histoire qui est racontée dans les mémoires qu'a consigné Marcel Sauvage, son ami. Aptay lui aurait demandé de faire le tri entre les réfugiés qui venaient très nombreux. Et alors, dès qu'il voyait un réfugié blond, et très arien, elle le dénonçait en disant c'est sans doute un nazi, puis on s'apercevait que c'était un brave belge. Mais il faut pas moquer le rôle de Joséphine Baker pendant la guerre, parce que elle va être un agent important, autant qu'une propagandiste très demandée, ce qui va lui valoir en 1944, interview par la radio nationale, beaucoup de reconnaissance.
Je suis engagée depuis le début de la guerre. Je suis allée au Maroc, en Égypte, dans le Moyen-Orient.
Comment voyagiez-vous ?
En Égypte. Quelquefois dans le désert, des soldats français, britanniques, belges, polonais, tchèques, grecs, palestiniens, etc. se réunissaient sur la tente pour bavarder avant de se coucher. Chacun parlait de son pays. Chacun voulait que son pays soit le plus beau. Mais surtout lorsqu'on était question de Paris ou de la France.
Paris, Paris, le beau Paris, c'est toujours toi que j'aime. Paris, Paris, ton chic naturel est resté le même. Je revois quelle joie extrême dans mon cœur. Vient de naître un grand bonheur. Paris, Paris, pour toujours, c'est toi, mon amour.
Là, on est au moment de son retour, mais si on revient un peu en arrière, Martin Penney, elle est allée en zone sud après la drôle de guerre. De Marseille, elle est passée en Afrique du Nord. Et qu'est-ce qu'elle a fait en Afrique du Nord ?
C'est-à-dire que Apté et elle ont reçu l'ordre de partir en Afrique du Nord. Donc là, on est à l'automne 40, pour y jouer le rôle d'intermédiaire entre le deuxième bureau français et l'Angleterre via le Portugal. Et finalement, elle va séjourner pendant un certain temps à Alger et surtout au Maroc, donc d'abord à Marrakech où elle rencontre le Glaoui, la cour du sultan, etc. Et puis bon, elle va avoir traversé des gros problèmes de santé qui vont la clouer au lit pendant 18 mois quasiment. Et c'est à Casablanca qu'elle va rester. Et
alors elle revient. Mais de son lit, elle menait des opérations de renseignement.
Voilà, c'est ça. Apparemment, il y avait pas mal de visites dans sa chambre. Et donc elle a donc mené certaines missions de cette manière-là.
Je tiens quand même à souligner qu'il y a eu une visite d'importance dans la médina de Marrakech où elle avait une maison confortable avec son amant, maître espion. C'est la visite du jeune François Mitterrand, qui revenait de se faire houspiller par le général de Gaulle à Alger et qui a reçu un bien meilleur accueil chez Joséphine Becker. Et quand elle est à Alger elle-même, c'est une dévote du général de Gaulle.
Oui, là on est donc début 43, hein, puisqu'elle... donc elle a malheureusement vécu le débarquement américain en Afrique du Nord des fenêtres de sa chambre, hein, et lorsqu'ils sont arrivés à Casablanca. Et puis donc là, on est donc effectivement en 43, et là, elle est totalement fascinée par la personnalité du général de Gaulle. Et donc elle donne un concert devant le général de Gaulle. Elle est bouleversée par sa présence. Elle porte une robe de jersey bleu, blanc, rouge. Et elle commence à chanter « J'ai deux amours ». Puis elle tombe à genoux en larmes et s'écrie en se tournant vers la loge d'honneur « Je ne peux pas chanter, il est là !» Alors évidemment, ça a été un triomphe mémorable. Et puis de Gaulle lui fait remettre une petite croix de Lorraine en or. Et donc elle veut organiser des tournées au profit des soldats à travers tout le Maghreb, et donc elle va jusqu'en Libye, en Égypte. Elle avait même prévu aussi pour les soldats britanniques, elle avait prévu même pour les soldats français d'aller jusqu'à Beyrouth. Bon, finalement ça s'est pas fait parce qu'elle est retombée malade. Enfin, c'était une période vraiment très compliquée.
On a entendu en arrière-fond l'orchestre de Jo Bouillon dans cette chanson Paris 44 après son retour. Je lis dans Télérama, Jo Bouillon, avec qui elle va être très liée, c'est un numéro d'août 2015, avec qui elle va se marier, avec qui elle va chanter. Elle l'a rencontré dans la Résistance, qui est quand même assez cocasse.
Oui, non, c'est pas vraiment la vérité. Parce que donc, elle, effectivement, elle était pas dans la Résistance, elle était dans la France libre, hein, puisque donc, elle est devenue, en mai 44, engagée volontaire pour la durée de la guerre dans le corps des forces féminines de l'air à Alger. Et donc elle a suivi, d'abord elle a reçu un ordre de mission pour aller du général Bouscat pour se rendre partout où son service l'exigera, et ça a été par exemple en Corse, donc pendant l'été 44, et puis donc elle est revenue en Afrique du Nord, et puis après elle est rentrée à Paris à la fin de l'année 44.
Et c'est là que
et c'est là qu'elle rencontre Joe Bouillon, uniquement à ce moment-là.
Joe Bouillon, lui, pendant la guerre, lui.
Ah bah lui, il s'est produit à la radio, il s'est produit un peu partout.
Enfin, à Radio Vichy, à Radio Paris.
Surtout Radio Vichy, en fait. Et donc il a, il s'est produit abondamment. Et le fait de pouvoir accompagner Joséphine Baker, c'est un peu une aubaine pour lui, parce qu'à partir de ce moment-là, donc là on est fin 44, le disque qu'on vient d'entendre a été enregistré pendant une courte réouverture des studios en décembre 44, et à partir de ce moment-là, ils vont plus se quitter.
Et les États-Unis, parce que elle a joué un rôle pendant la guerre pour apaiser les tensions raciales entre les soldats noirs et les soldats blancs dans l'armée américaine stationnée en Afrique du Nord. Elle avait fait une tentative aux États-Unis en 1935, elle va y retourner en 1947.
Oui, il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas vraiment marché. Elle était assez mal accueillie à New York, elle était victime, d'après tous les récits qu'on a, de certaines choses racistes. Et donc, enfin pas que ça, c'est aussi parce qu'elle avait beaucoup de mal à reséduire le public américain qu'elle avait pourtant séduit dans les années 20. Donc, peut-être que parce qu'ils considéraient qu'elle était partie. Enfin bon, il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'en 1935, aux Ziegfeld Follies, ou en 1947, pendant Paris Sings Again à Boston et à New York, ça n'a pas marché. Et donc, il faudra attendre 1951, où là, il y a un début de succès, mais elle sera encore victime de racisme.
1951, archives de la radio nationale française.
Vous avez fait à peu près toutes les villes des États-Unis.
Ah oui, tout sauf que beaucoup de villes dans le sud de l'Amérique du Nord.
Mais pourquoi?
Pas parce que question de discrimination. Alors, je ne suis pas allée à Atlanta, je crois. Joe m'avait dit que vous avez parlé de ça, Georgia. Et je suis au contraire allée à Miami, Floride. Parce que là, nous avons commencé par essayer de donc enlever toutes ces histoires raciales. Et nous l'avons réussi. Pour la première fois, il y a eu des gens de couleur dans les cabarets les plus chics de Miami, dans les hôtels de premier ordre. Et pour la toute première fois dans l'histoire d'Amérique du Nord, les gens de couleur, on a pu rester à Miami Beach après une certaine heure. Parce qu'avant ça, ils ont pu travailler, mais après une certaine heure, il fallait partir quitter Miami Beach.
Un incident marquant en 1951.
Oui, c'est la fameuse histoire du Store Club, un restaurant très chic de New York qui pratiquait la ségrégation raciale et où on l'a refusé. Enfin, on l'a laissé entrer, mais on l'a refusé de la servir. Autant dire qu'on l'avait refusé totalement. Et un célèbre journaliste présent ce soir-là, Walter Winchell, ne prend pas sa défense. Et alors, elle l'attaque et déclenche une avalanche médiatique qui, dans un premier temps, lui est favorable et augmente son succès, mais qui finira bientôt par l'ensevelir, parce que ça a eu des tas de conséquences incalculables. Et finalement, tous les théâtres lui ferment leurs portes. Elle devient indésirable.
Mais elle va revenir régulièrement participer à la lutte antiségrégationniste, marche de Washington 63. Elle était aux côtés de Martin Luther King dans plusieurs combats. On l'a même vue chanter chez Fidel Castro en 1966 au nom du tiers-monde. Et un jour, elle dit à Fidel Castro, vous pouvez m'aider parce que mon château prend l'eau. Fidel Castro va lui envoyer des fraises, des pamplemousses et des oranges. Il faut qu'on en vienne à cette question du château des Mille Landes.
Oui, alors donc vous l'avez dit tout à l'heure, Jean Lebrun, elle l'a occupé depuis la fin des années 30, elle le louait à cette époque, et puis elle a fini par l'acheter en 1947, mais ça ne lui suffisait pas, parce que elle a décidé progressivement, avec Joe Bouillon qu'elle a épousé entre-temps, d'acheter toutes les maisons du village environnantes, quasiment, et d'en faire un village, enfin d'abord un parc d'attractions, le Sans Souci, et donc avec toutes sortes d'attractions le plus étonnantes possible, et qui devait attirer les touristes, donc faire une sorte de centre touristique destiné aux visiteurs du monde entier. Mais en fait, son vrai but, c'était d'édifier un village idyllique où seraient élevés plus tard dans la fraternité des enfants de races et de religions différentes. Et elle voulait appeler ça sa famille arc-en-ciel, ce qu'elle a fait.
Elle en a adopté 13 à la douzaine, mais alors la gestion était un peu difficile et plus les années passaient, plus le gouffre se creusait. Et un jour, elle est quasi engloutie, la voilà condamnée, 1969, à l'expulsion. Elle est retranchée dans sa cuisine, à laquelle elle ouvre bien sûr la porte pour les journalistes.
Un nouvel épisode est venu s'ajouter à l'histoire déjà longue et mouvementée du château des Mille Landes, qui fut la propriété de Joséphine Baker. Les nouveaux acquéreurs en ont pris possession 8 jours avant la date d'expulsion définitive de l'artiste. Celle-ci est alors revenue au Milland et a réussi à s'introduire dans la cuisine du château où elle s'est barricadée et où elle campe désormais tandis que les nouveaux propriétaires occupent le premier étage. C'est dans cette cuisine qu'elle nous a reçus.
Ils ont envahi tout, ils ont fermé les portes, ils ont mis des chaînes partout, les pour garder, gardiens, etc. Alors, je crois que vous voulez me demander ce que je vais faire. Eh bien, je vais rester là. Et je vais essayer de voir tout le château de nouveau. Pas le château, mais l'idéal qu'il présente.
C'est un mais idéal pour la presse, un scandale de l'époque.
Ah bah oui, vous avez vu comme elle est tenace. Hein. Elle a été vraiment acculée. Elle n'en pouvait plus financièrement, malgré tous les spectacles qu'elle avait continué à faire. Alors qu'elle avait fait ses adieux en 56, elle a dû remonter sur scène. Et donc, ça a été un tour de chant perpétuel durant toutes les années 60 à travers le monde, qui marchait bien. Hein. Mais c'était un tel gouffre à financer, les Milland, que ça a été absolument terrible. Et donc, effectivement, elle a fait appel à toutes les générosités possibles, jusqu'à Brigitte Bardot qui a fait un appel, etc. Et donc, oui, bien sûr, la presse à People, voire la presse à scandale, se repaissait de tout ça. Et
les adieux, alors, vous dites, ils sont interminables. Ils doivent être repoussés parce que il faut remplir les caisses, payer les échéances. Le dernier moment est superbe.
De toute façon, elle a fini par vraiment être expulsée. Donc, elle se retrouve avec ses 12 enfants et sa famille et ses animaux dans un meublé de l'avenue MacMahon. Mmh. Et puis, finalement, la princesse Grace la prend sous son aile, lui fait acheter par la Croix-Rouge une maison à Roquebrune, sur la Côte d'Azur, où donc là, elle peut loger tout son petit monde. Et puis, elle décide, d'abord elle fait un gala à Monte Carlo, au Sporting Club, qui marche très bien, 74, et donc c'est André Levasseur qui avait monté cette revue, et il est décidé de la poursuivre à Paris, à Bobino, en 1975.
Elle a 69 ans.
Oui, elle a 69 ans, et elle fait des efforts surhumains pour paraître aussi belle que possible devant son public.
Parce que c'est une revue complète.
C'est
là,
une revue
Bobino.
Complète qui évoque toute sa carrière. Elle a jamais fait ça depuis des années, à ce point-là, et avec toute une succession de tableaux dans des costumes les plus incroyables, notamment un qui est transparent et qui montre son corps. Et elle dit aux journalistes, je veux que Paris voit mon corps et ses 50 cm de tour de taille comme en 1925. Vous pouvez imaginer le régime draconien qu'elle s'est infligé. Et donc le résultat, c'est que la première de gala, le 8 avril 1975 est absolument sublime, mais 4 jours plus tard, elle est victime d'un malaise et ne s'en
La légende, pas. Il faut rester dans la légende avec Joséphine Becker, dit qu'elle est tombée dans le coma, dans un lit qui était submergé de copies des articles dithyrambiques qu'elle avait suscités. Et c'est là qu'elle a repris pour la dernière fois.
J'ai de l'amour. Mon pays est parti, toujours. Mon cœur est gravé, ma savane est belle. Mais à quoi bon le nier, ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris.
L'émission était préparée par Guillaume Scaillet avec à la technique Fabrice Desmas, pardonnez-moi Fabrice. Et à la réalisation, Jacques Sigal. Je rappelle votre album sur Joséphine Becker, la vente à Drouot d'une 50aine de lots ce soir. Cet album, c'est chez BD Musique. Martin Penet.